VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Les deux rivaux libyens, le maréchal Khalifa Haftar et le chef de GNA, Fayez al-Sarraj, sont attendus aujourd'hui à Moscou, en Russie, pour signer un accord sur les modalités du cessez-le-feu entre leurs troupes, entrées en vigueur dimanche. Après plus de 9 mois de combats meurtriers aux portes de la capitale libyenne, Tripoli, la signature de cet accord doit devenir un pas supplémentaire dans la désescalade voulue par Moscou et Ankara sur fond de crainte d'une internationalisation accrue du conflit libyen. Cette trêve doit servir de prélude à une conférence sur la Libye à Berlin sous l'égide de l'ONU courant janvier. La chancelière allemande Angela Merkel est d'ailleurs venue samedi à Moscou pour des pourparlers sur le sujet avec le président russe, qui a aussi enchaîné les conversations téléphoniques avec les dirigeants arabes et européens. Cette conférence doit permettre l'émergence d'un dialogue politique à même de résoudre cette guerre civile. Et réunion aujourd'hui à Pau en France entre le président Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel à l'ordre du jour. Entre autres sujets, la dégradation sécuritaire, la propagation djihadiste, ainsi que la présence militaire française dans la région. L'analyste politique Ibrahima Kane appelle la France à clarifier sa position dans la région sahélienne.
Cette conférence est convoquée par la France pour procéder à des clarifications. Je pense que la première clarification qu'il faudra faire à cette réunion, c'est quel est le rôle de la France dans cette lutte. Est-ce aider les pays à vraiment réduire, parce que je pense que éradiquer le terrorisme dans la région est quelque chose de très difficile à l'heure actuelle et ça prendra énormément de temps, mais aider les pays à mieux s'organiser et à mieux défendre leur territoire contre les attaques djihadistes. Ça, c'est la première chose. Aider les pays à surtout protéger leur intégrité territoriale, préserver leur intégrité territoriale, parce que dans le cadre du Mali, le sentiment qui se dégage dans la population est que la France fait tout pour que les Touaregs aient un territoire. Et ça, il faut dissiper ces malentendus.
Ibrahim Kane, analyste politique, joint à Dakar par Eric Manerakiza. Nouveau bilan au Niger de l'attaque du 9 janvier contre la position militaire de Shino-Gouda près du Mali. On compte désormais 89 soldats tués au lieu des 25 annoncés précédemment suite à cette attaque, selon le gouvernement qui a décrété un deuil national de 3 jours. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Le gouvernement nigérien aura donc mis presque 48 heures pour confirmer une information qui a fait le tour de la toile depuis que des parents de victimes partis au carré des martyrs pour les obsèques des militaires décédés le 9 janvier dernier à Shiné-Gouder ont indiqué avoir dénombré 89 corps au lieu des 25 annoncés dans le premier bilan.
Après ratissage, le bilan se présente de la façon suivante. Côté 89 morts. Côté ennemi, 77 morts. À cette douloureuse...
Le ministre porte-parole du gouvernement annonce également un deuil de 72 heures à compter de ce lundi, date prévue pour la rencontre entre le président Emmanuel Macron et les 5 chefs d'État du G5 Sahel dans la ville française de Pau, une rencontre sur la coopération militaire dans la lutte contre le terrorisme. Ici à Niamey, beaucoup de citoyens se demandent si après un tel drame, le président Issoufou doit se rendre à cette rencontre.
Que Dieu bénisse le Niger et son peuple.
Abdelrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
3 enseignants ont été tués et 1 enlevé aujourd'hui dans l'est du Kenya par de présumés militants islamistes Shabab qui ont en outre partiellement détruit un pylône de télécommunication et mis le feu à un poste de police. Depuis le début de l'année, les Shabab ont intensifié leurs attaques dans l'est du Kenya à proximité de la frontière avec la Somalie et la police kenyane est en état d'alerte maximale. Le 5 janvier, des combattants Shabab ont attaqué une base militaire américano kenyan à Lamu, dans le sud-est, tuant 3 Américains, un militaire et 2 sous-traitants du Pentagone et détruisant plusieurs avions. 2 jours plus tard, ils ont tué 4 civils, dont un enfant, dans une école primaire à Saruto, à 25 km du camp de réfugiés de Dadaab, près de Garissa. En République démocratique du Congo, l'armée a reconnu la perte de 30 militaires dans sa dernière offensive contre les forces démocratiques alliées, les ADF. Ce groupe armé sème la terreur dans l'est du Congo depuis des années. Eric Manirakiza.
L'armée congolaise affirme avoir conquis jeudi le QG des ADF à Madina dans la région de Beni, dans la province du Nord Kivu. Le major Mark Hazukai, son porte-parole dans la région, a aussi reconnu 70 blessés. Du côté de l'ennemi, 40 ADF ont été neutralisés, dont 5 leaders, a-t-il poursuivi. Des armes ont également été récupérées, selon la même source qui qualifie les ADF d'intégristes islamistes. Près de 150 civils ont été tués en émoi dans des représailles des ADF sur les populations dans le territoire de Beni. L'armée congolaise arrive petit à petit vers Mbao Kamango, un des fiefs des ADF au nord de Beni, vers l'Ouganda, a ajouté le porte-parole militaire. L'axe Mbao-Kamango est au cœur d'une zone appelée le Triangle de la Mort en raison des exactions des ADF. Des habitants de Beni avaient saccagé fin novembre une base civile de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO en accusant les casques bleus d'inaction face aux violences des ADF. Les autorités congolaises et la MONUSCO avaient par la suite annoncé des opérations conjointes. Début 2019, l'État islamique a revendiqué quelques-unes de leurs attaques.
Au Congo, Brazzaville, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, un ancien partisan du président Denis Sassou Nguesso, appelle l'opposition à se mettre ensemble pour choisir un candidat unique aux élections de 2021. Comment cette idée a-t-elle été accueillie au sein même de l'opposition, qui ne s'est pas encore remise de cette division de la dernière présidentielle? À Brazzaville, retrouvons notre correspondant Hassan Séverin.
Pour Jean-Jacques Serge Yombi Opango, 2021, c'est déjà maintenant. Il faut que les opposants parlent d'une seule voix et choisissent un candidat unique pour cette élection présidentielle. Et qu'est-ce qui fonde la foi du vice-président du RDD?
Dans la situation actuelle, aller aux élections, justement, si nous ne sommes pas un, si nous ne désignons pas un candidat, ça va être de l'aventure pure d'aller s'affronter à ce pouvoir qui a tout en main. Et ils ne changeront rien parce qu'eux, ils n'ont pas envie de changer les choses, ils veulent rester au pouvoir. Si nous loupons le coche cette fois-ci, ce pouvoir, ce système unique va rester au pouvoir plus de 100 ans. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on le stoppe. Le peuple congolais qui est dans la misère, le peuple congolais qui en fait en a strictement marre de ce système, le peuple congolais qui veut le changement. C'est ça qui me donne de l'espoir. Et au moins le peuple congolais, lui, il ne nous trompe pas.
Dans le camp de l'opposition constitutionnelle, Armand Pourou de la Dynamique pour le Développement du Congo réagit.
Nous disons que ça peut être possible, hein, puisque nous sommes les hommes. Mais peut-être que nous analysons la vie politique congolaise, nous avons encore les questions de haine, de jalousie, où c'est un peu difficile qu'un homme supporte l'élévation de l'autre. Il faudrait qu'on travaille un peu ce niveau, l'humilité. Mais sinon que pour l'instant, nous sommes encore un peu hésitants.
En fait, les opposants congolais se sont déjà mis ensemble entre 2015 et 2016 à travers un front contre le référendum constitutionnel et la réélection de Denis Sassou Nguesso. Mais là, l'échec a été retentissant. Paul-Marie Pouillet était alors coordonnateur de ce front, le FROCAD.
Il y avait trop d'ego, il n'y avait pas un projet commun, il y avait trop de suspicions. Et chacun voulait en réalité se la jouer solo pour être le partenaire privilégié du pouvoir. Je crois que c'est ça qui n'a pas marché. En tout cas, ça, je fais une critique en tant que coordonnateur.
Analysant les possibilités de l'opposition congolaise de se mettre d'accord d'ici 2021, l'universitaire Vivien Manangu reste pessimiste.
S'oppose-t-il au président Sassou? Ou s'oppose-t-il simplement au fait que le RDD aujourd'hui ne soit pas dans une situation de gouvernance? Et donc, nous savons très bien que l'opposition ne se réunira pas, parce que l'opposition n'a pas de fil conducteur. Pour que l'opposition se réunisse, il faut un fil conducteur qui peut être idéologique. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'idéologie. Donc, l'opposition ne se réunira pas tant que ça sera simplement des appétits personnels. Donc, voilà, l'appel de M. Yombi, ce sera comme un coup de pied dans l'eau, évidemment.
À l'instar de Jean-Jacques Yombi Opango, qui réclame une réelle gouvernance électorale avant le prochain scrutin présidentiel, Pascal Tsatsimabiala, le chef de file de l'opposition, avait même demandé que le président Sassou Nguesso reste au pouvoir au-delà de 2021, le terme de son premier mandat. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Une nouvelle de la politique américaine avant de nous quitter. La chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a assuré dimanche disposer d'assez de preuves pour destituer Donald Trump à la veille d'une semaine cruciale dans la perspective de l'ouverture au Sénat du procès du président des États-Unis. Donald Trump a pour sa part estimé que l'affaire devrait être close sans procès, déclarant que toute procédure au Sénat apporterait une crédibilité indue à ce qu'il considère comme une chasse aux sorcières menée contre lui par ses opposants démocrates. Jean-Roger Billon à ce micro. Nous sommes le lundi 13 janvier 2020. Prochain journal dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.